Bruno est en studio avec nous pour démarrer son émission Écriture dessinée. Bonjour Bruno.
Alors aujourd'hui, on va parler bien sûr de bande dessinée, mais aussi de théâtre. Alors la bande dessinée est régulièrement rapprochée du cinéma pour des raisons de valeur de plan similaires, sans tenir compte de l'importance du récit. La fragilité des hommes de Vincent Zabus et de Nicobi affirme au contraire la proximité de la bande dessinée avec le théâtre. Présence des personnages, force des dialogues, économie de la mise en scène, autant de raisons de rencontrer les deux auteurs de La fragilité des hommes. Vincent Zabus tout d'abord, et à partir de 14h30, ça sera Nicobi qui est le dessinateur, mais pas que, de ce livre. A tout de suite. Écriture dessinée. Donc Antoine est en technique, Issa a fini son service civique, en tout cas on a fait quelques belles émissions, et avec Antoine je suis entre de bonnes mains. Alors il y a pour la musique, il y aura Arisky, une interprétation de Because the Night de Patti Smith par la chorale d'un jour, et puis Audezen. Commençons avec une première brève sur le festival du dessin. J'ai présenté donc ce festival qui se déroule dans la ville d'Arles, donc c'était la 4e édition, elle s'est achevé le 17 mai, et vous aviez pu entendre, c'était le 14 mai, l'entretien avec Frédéric Pajac, qui est directeur artistique de ce festival. Alors, les chiffres, quand même, pour voir comment se passe ce festival. 198 628 entrées, presque 200 000, sur 49 expositions, 55 visites guidées, 18 ateliers, et les catalogues. Les catalogues, en fait, qui sont vraiment une façon de nous immerger dans différentes œuvres dessinées, de montrer au niveau mondial ce qui est et ce qui fait la puissance du dessin. Eh bien, ces catalogues, en fait, c'est le prolongement d'une revue qui avait démarré il y a quand même pas mal d'années par les cahiers dessinés, qui s'appelait la revue, qui s'appelait Le Cahier Dessiné, et qui permettait de découvrir à chaque fois un grand nombre d'artistes dessinateurs. Donc là, le 4e catalogue est toujours dans cette même lignée des 3 précédents, avec vraiment une grande qualité de soins, d'édition et bien sûr de contenu. En fait, le Festival du dessin d'Arles est en train de prendre la place laissée par le Festival d'Angoulême. Tant pis pour eux. Festival d'Angoulême avec 9e Art Plus, ils ont fait n'importe quoi. C'était honteux. Et les plaintes qui ont été déposées, eh bien, on va suivre pour voir qu'est-ce qui va se passer, jusqu'où ça va aller. On attend effectivement des informations pour celui de 2027, mais je crois que définitivement, Angoulême a perdu cette place phare dans la bande dessinée et donc le dessin, et le Festival du dessin d'Arles, avec cette pluralité d'approches, il y a aussi des auteurs de bande dessinée, eh bien, va prendre une place, à mon avis, essentielle dans ce monde du dessin. Les moustiques. Alors, j'ai évoqué la dernière fois, juste mentionné le décès de Marjane Satrapi à l'âge de 56 ans. C'était vraiment dans les quelques jours de juin. Et je voulais revenir un peu, faire une évocation à la fois de son parcours et de son œuvre. L'œuvre la plus connue, c'est Persépolis, qui est un livre qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en France, publié dans de très nombreux pays. Et en fait, ses parents, quand elle était jeune, à l'âge de 14 ans, pour lui épargner l'oppression d'un régime islamique, ils l'ont envoyé en France. Donc il y a un exil et une bande dessinée qui va, une première qui est Poulet aux prunes, qui sera éditée après Persépolis, mais qui va permettre à Marjane de Satrapi de se lancer vraiment dans une écriture dessinée, et c'est la puissance de Persépolis. Marjane Satrapi, en fait, a découvert la bande dessinée parce qu'elle en lisait quand elle était jeune. Son père lui donnait à lire des bandes dessinées, plutôt sur l'histoire du marxisme. Alors c'est peut-être pas les plus passionnantes, mais en tout cas, l'écriture était là, et c'était à la place des contes de fées. Alors il y a dans le parcours artistique de Marjane Satrapi des moments très forts qui sont en fait focalisés autour de différents modes d'expression. Marjane Satrapi a fait de la bande dessinée, et Persépolis a été vraiment un des sommets de sa carrière et qui lui a permis d'être la plus indépendante, et en tout cas montre une très grande qualité dans la représentation, dans cette écriture autobiographique, cette façon de mettre en scène sa vie familiale et au milieu du régime islamique, et ça c'est assez exceptionnelle. Elle avait intégré l'atelier des Vosges, qui est un atelier à Paris où on a des auteurs comme Émile Bravo, Fabrice Tarin, Christophe Blain, Johann Sfar, Frédéric Boilet, David B. Et en tout cas, ces auteurs vont vraiment lui donner le goût de la bande dessinée, et ses lectures vont vraiment l'amener à cette écriture dessinée, à l'œuvre par exemple dans Persépolis. C'est un livre en noir et blanc, avec un noir tranché, avec une façon de représenter qui est et qui reste assez ironique. On a une simplicité, une fluidité dans le récit qui est aussi portée par ce dessin simple, précis, qui est au plus près des personnages. Alors, c'est quand même une façon de voir quelle est l'importance, la qualité d'un dessin. C'est si il rend compte des situations, si on est parfaitement dans la compréhension des scènes, et si même on est au plus près des personnages. Par la suite, il va y avoir une adaptation en dessin animé de Persépolis qui se fera avec Vincent Parnot, qui est aussi auteur de bande dessinée, c'est Vince Schluss. Et il y a d'autres projets qui vont suivre et qui va permettre à Marjane Satrapi de poursuivre sa carrière de réalisatrice. Et elle a fait également de la peinture. Et c'est aussi un point important, parce qu'elle va pleinement s'épanouir avec la peinture. Donc elle va être exposée dans une galerie. Elle ne peint que des femmes. Et elle va donc là aussi développer une sensibilité, une compréhension à la fois du mode d'expression extrêmement intime, et qui fait que son œuvre va aussi être remarquée. C'est une artiste nomade qui a investi donc ces trois domaines, la bande dessinée, le cinéma et le film d'animation, ainsi que la peinture. C'est une très grande dame qui s'est éteinte à l'âge de 56 ans, c'est très jeune. Ses proches disent qu'elle est morte de tristesse à la suite du décès de son mari, Mathias Ripa. Il y avait un an. Et en tout cas, c'est une femme libre et qui, par son œuvre, restera. Il y a un point qui est peut-être important de souligner, mais Persépolis, par la puissance de son écriture et par cette forme d'écriture dessinée, est à rattaché à l'Arabe du futur de Riyad Satouf, parce qu'en fait, l'écriture biographique, autobiographique de Persépolis, bien on va retrouver dans l'Arabe du futur cette même communauté d'esprit, ce type d'approche autobiographique, et le succès aussi de l'Arabe du futur confirme la qualité et la puissance de ce type d'écriture. Musique.
Le temps s'est rafraîchi, c'est un très beau matin. Un beau matin d'été plein d'agents et de chiens. La ville se construit, les enfants sont tout nus. J'ai mal pris la nouvelle, elle n'est pas revenue. Lélé, 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 lélé. Le métro fait du bruit, faut que je m'en occupe. Mon voisin veut me vendre à la brigade des stupes. Le destin a des doigts, mais la gloire a des ailes. Les roses de salon sont des fleurs bien cruelles. Les passants dans la rue sont tous des survivants. Elle a promis le mariage à un beau lieutenant. Le café est raté, le miroir est cassé. Te souviens-tu du vent et des anciens étés?
La fragilité des hommes est un roman graphique qui met en lumière la proximité entre le théâtre et la bande dessinée. Dans la ville de Mouet, Fanny, une comédienne, débarque. J'y arrive. Elle va changer le quotidien des gens en les incitant à se raconter, en mettant leurs souvenirs en scène. François Sauvage, connu pour ne jamais finir ses phrases, représente ce chemin qui l'amènera à libérer sa parole, à se défaire d'un secret et à redonner un sens à sa vie. François Sauvage est le narrateur de ce récit, La fragilité des hommes. Vincent Zabus, le scénariste et poète, dramaturge, scénariste pour le cinéma et la bande dessinée, il est le directeur artistique des Bonimenteurs, une compagnie de théâtre de rue. Ces différentes pratiques donnent un timbre particulier à son écriture qui fait de la fragilité des hommes un sommet. Nous sommes avec Vincent Zabus pour qu'il nous partage son écriture. Vincent Zabus, la fragilité des hommes, donc c'est votre dernier roman graphique avec Nikomi. Comment construisez-vous vos personnages? Parce qu'il y a dans la fragilité des hommes un ensemble de personnages qui ont une intensité, une présence. Alors comment les construisez-vous?
Je dirais que je les construis par touches un peu impressionnistes. Donc parfois je suis inspiré par des choses que j'ai vécu, et il y a une anecdote qui m'a frappé chez quelqu'un, comme dans La fragilité des hommes, par exemple, je parle quand même du théâtre de rue et que je le pratique, je suis régulièrement en tournée et on rencontre des gens, et à travers ça, il y a des choses qui me frappent. Par exemple, à un moment, dans la bande dessinée, il y a un chœur de femmes qui racontent la situation qu'elles ont vécue en usine. Eh bien, ça, c'est une idée qui m'est venue à Dunkerque quand j'ai vu un spectacle qui avait été réalisé par des ouvrières, des anciennes ouvrières de Samsonite, dont l'usine avait fermé. Et j'ai discuté avec l'une ou l'autre d'entre elles. C'était il y a quelques années. Hein. Et ça, c'est quelque chose que je garde en mémoire. Et alors, j'ai comme une impulsion pour raconter quelque chose. Et puis, ça se développe petit à petit. Ou alors aussi, c'est juste... mon imaginaire qui se confronte à des situations actuelles dont j'ai envie de parler. Par exemple, un moment, aussi dans la bande dessinée, quand on lit le journal intime d'une femme des années 50-60, qui a dû un peu sacrifier sa vie personnelle à son mari et à sa famille, c'est quelque chose, c'est vrai, dont on parle le plus maintenant, et à propos duquel j'ai beaucoup lu. Et alors là, j'ai envie de traiter le sujet, j'essaie de le rendre concret. Et quand j'écris, ça se fait... En fait, j'écris assez rapidement, première impulsion, pendant 15 jours, et puis j'oublie pendant 3 mois, je fais autre chose, et puis je retravaille dessus 3 semaines, donc je fais beaucoup de couches, et les personnages évoluent au fil du temps comme ça, et j'essaye de les rendre toujours crédibles et humains, et pas le fruit de la réflexion, de l'organisation d'un scénariste, et ça prend du temps pour enlever ce qui est un peu cliché, pour que les personnages vibrent, et qu'ils soient justes et qu'on puisse les faire parler avec justesse, quoi. Voilà.
Comment Vincent Zabus va avancer donc vers cette écriture définitive, votre récit? Est-ce que vous avez parlé là déjà de 2 temps d'écriture? Est-ce qu'il y a un moment, le dessin qui va intervenir et qui va alimenter l'écriture des situations, mais vous débarrassez de le récit d'intrigues un peu souvent systématiques pour rester très proche des hommes et des femmes, de Moët, qui est le nom de la ville où se déroule ce récit?
Oui, mais souvent je sais pour qui j'écris. Et ça me paraît important. Bon, parfois, ça change parce qu'on écrit pour un dessinateur et puis finalement, il n'est plus dispo. Mais souvent, je sais pour qui j'écris. Et donc, je tiens compte à la fois de son dessin, parce que je regarde, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé ou quelqu'un dont je connais bien le travail. Je sais comment il fait vivre les personnages, comment il travaille les atmosphères, la mise en scène de chaque page. Donc, je vois un peu son langage. Et c'est comme si j'avais un violon avec plusieurs cordes, un petit violon d'écrivain avec plusieurs cordes, et pour tel dessinateur ou telle dessinatrice, je le fais vibrer d'une façon ou d'une autre. Donc quand j'écris pour Nicobi La fragilité des hommes, c'est pas la même chose que quand j'écris Mémoire d'un garçon agité pour Valérie Vernet. Je sais qui va le dessiner, je propose un découpage d'une certaine façon en fonction de ça. Donc ça, c'est en amont. Et puis en effet, pendant le travail, c'est sûr qu'à un moment, je reçois des storyboards, et puis on discute, et donc les choses évoluent dans la discussion, si le dessinateur ou la dessinatrice sent bien plus ou moins telle situation ou pas, ou a envie de dessiner ça ou pas, mais j'en tiens compte. Et puis le moment capital, c'est les brouillons, quoi, les brouillons crayonnés de chaque page. Et là, on voit ce qui marche ou pas, et dit ok, ça, l'image le raconte, on va couper le texte, ou ça c'est pas clair, on va rajouter. Ou si on mettait qu'un seul dessin pour tout raconter et qu'on enlevait d'autres. Et donc il y a encore vraiment un retravail qui est capital, je dirais, au moment du storyboard, puisque c'est là que ça se raconte, l'histoire se raconte en bande dessinée, pour qu'elle se raconte bien, c'est-à-dire qu'elle soit immédiatement lisible, et pour qu'elle atteigne son but, c'est-à-dire que si on veut être drôle ou si on veut être émouvant, est-ce que. Au-delà de l'intention qu'on avait au départ, est-ce qu'on y arrive en regardant la planche? Là, c'est vraiment un petit travail d'artisan, d'orfèvre. On va mettre la bulle là, je vais changer ça, regarde le dessin, là, c'est pas clair. Et on fait ça à deux, donc je reçois 5 ou 10 page storyboardée, et puis là, je passe une journée à tout relire, à tout corriger, puis j'appelle le dessinateur, on trouve les solutions ensemble, et il y a vraiment une, et je pense que c'est très important, une fusion entre le dessin et le scénario, comme si c'était le produit d'une seule personne. À un moment, là, moi, parfois, je ne sais plus quelle idée, si c'est une idée à moi, une idée des dessinateurs, à un moment, on oublie, parce qu'on fait vraiment œuvre commune. Et ça, je pense qu'on sent les bandes dessinées qui sont faites comme ça, c'est-à-dire à l'unisson, et qui se créent au fil du temps, qu'à un moment, le scénariste envoie son découpage, et puis pouf, le dessinateur dessine, et ils en parlent un petit peu, mais pas beaucoup. Je trouve qu'on sent vraiment la différence. Et pour moi, c'est très important qu'il y ait cette collaboration très proche.
Vincent Zabus, la fragilité des hommes, c'est, comme vous l'avez évoqué, déjà un ensemble de parcours qui va reposer sur l'intériorité, sur cette part de chacun, de leur personnalité qui va éclore grâce au théâtre. En bande dessinée, il y a toujours une difficulté d'exprimer la nuance, comme peut le faire un acteur au théâtre avec une mimique travaillée, mais qui va être souvent très, très légère, mais qui va donner une émotion, une intensité. Comment abordez-vous cela pour pouvoir mettre en image et concevoir ces nuances dans le récit, parce qu'elles sont particulièrement réussies dans la fragilité des hommes?
Ben merci, c'est ce qu'on essaye de faire dans tous les cas. Alors, comment y arriver? Ben je regarde déjà le travail de mes prestigieux collègues. Par exemple, je lis beaucoup les BD de Pascal Rabaté, de Manu Larsenet, ou même Calvin et Hobbes, les Peanuts, Moe's, enfin voilà, donc je regarde comment c'est fait chez les autres, et par exemple, Larsenet, on peut dire qu'il a que Nicobi est un dessin qui peut s'approcher au moins de la période de Larsenet du combat ordinaire, par exemple. Et combat ordinaire, je trouve ça très réussi, très émouvant, il y a une dimension politique, une dimension humaine, et il y arrive. Alors ça, c'est un aiguillon pour moi, je dis bon, il y a moyen, quoi. Et parfois, avec un petit dessin un peu grogné. Et donc, ça veut dire que là, c'est vraiment dans le découpage. Par exemple, les silences. Comment est-ce qu'on va marquer que le personnage est ému. Par exemple, là, à un moment, François, on sent qu'il est hanté par un peu certaines choses. Et puis, il rentre chez lui. Et puis, pouf, il voit sa mère morte dans le divan. Et puis... Et elle n'est pas là, c'est une réminiscence d'un moment douloureux pour lui. Et puis après, il y a une grande case où il est assis contre la porte du salon qu'il avait entrouverte, et on voit qu'il est triste et qu'il tient ses mains sa tête dans les mains, en plongée. Mais là, évidemment, c'est la magie du dessin. C'est-à-dire comment on va raconter son émotion en une case, finalement. Et là, on doit mettre en œuvre tout le langage de la BD. Donc, par exemple, les couleurs, le fait de le faire en plongée, que ce grand monsieur soit tout d'un coup assis comme écrasé sur lui-même, c'est-à-dire comment il joue, comment le personnage joue dans la case. Et là, on réfléchit à mettre en œuvre, justement, tout le langage que la bande dessinée met à notre disposition. Et c'est là qu'il faut vraiment réfléchir à la mise en scène, je dirais, au découpage qu'on propose. C'est bien de se dire, ok, là, le personnage est ému, mais surtout, comment on le montre? Comment est-ce qu'on le raconte? Et là, on est évidemment au-delà de la construction du scénario, où on organise quand les informations vont arriver à quel moment. On est dans la mise en œuvre, et là, c'est la subtilité des dialogues, la finesse du jeu des personnages, l'angle de vue, est-ce qu'on monte de près, de loin, l'ambiance colorée, dans quelle situation on le met. Donc, il faut essayer de faire jouer tout ce qu'on a à disposition pour atteindre son but, qui, par exemple, peut être l'émotion. Et ça, par exemple, dans le découpage, je retravaille énormément. Par exemple, la scène des ouvrières, là, quand elles font une espèce de chœur antique et qu'elles crient leur révolte, on a vraiment retravaillé le découpage, puisque ça... Et là, mon expérience théâtrale m'a aidé. J'ai vraiment proposé à Nicobi de le faire comme ci, comme ça. Et on a retravaillé le storyboard jusqu'au moment où on arrivait à sentir cet effet de groupe qui a quelque chose à dire. Et là, il faut recommencer et chercher.
Comment travaillez-vous les dialogues, Vincent Zabus, et jusqu'où les retravaillez-vous? Est-ce qu'une fois les dessins achevés, est-ce que vous refaites une lecture, comme certains auteurs le font, pour vraiment ajuster le texte et l'image?
Oui, oui, oui. Après, des scènes qui me viennent tout de suite dialoguer. C'est un petit cinéma dans ma tête, hein, j'entends les personnages qui parlent, ça c'est quand je les connais bien. Alors je les mets en situation et puis ça vient, je suis inspiré et ça peut venir directement en dialogue ou alors à un moment, c'est en amont de nouveau, je prévois un peu des étapes de scénario, je fais le synopsis et puis j'en arrive au moment où je dois vraiment écrire les dialogues et là souvent, l'inspiration pour nous amener un peu plus loin que ce qu'on avait prévu et donc j'essaye à la fois de structurer le récit que le lecteur ait envie de tourner les pages, hein, parce que c'est une histoire un peu sensible, humaine, mais qu'on peut lire un peu comme un suspense, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va y arriver, machin, qu'est-ce qu'ils vont... J'essaie de construire un plaisir de lecture, et puis parfois on est surpris pendant l'inspiration nous vient, et puis on commence à dire un peu d'autres choses que ce qui était prévu, et si c'est bien, on le garde. Et puis oui, au final, même systématiquement, c'est parfois pas très gai pour les dessinateurs, d'ailleurs, je change les textes, en effet, jusqu'au bout. Quand je vois la planche finie, même parfois en couleur, je réajuste encore, finalement, de moins en moins, mais jusqu'au bout, je change des petites choses de dialogue. C'est vraiment important pour moi. D'abord, je cherche la fluidité, c'est-à-dire que le lecteur ne soit jamais arrêté dans sa lecture, et puis aussi la justesse, en me disant toujours, mais est-ce que ce personnage peut dire ça, là, comme ça? Est-ce que c'est pas explicatif? C'est-à-dire que est-ce qu'il dit pas quelque chose que tout le monde a déjà compris? Ou est-ce qu'il ne dit pas ce que le scénariste veut qu'il dise, parce que ça m'arrange bien qu'on comprenne ça à ce moment-là? Et si oui, bon, je me dis, ok, il faut qu'on comprenne, mais comment est-ce qu'il peut le dire? Et donc ça, c'est vraiment tout un travail, et c'est sûr que là, le fait que je sois moi-même comédien, ou que j'écrive pour le théâtre m'aide, et j'y suis particulièrement attentif, quoi.
Est-ce qu'il y a des moments où les personnages résistent, refusent, se révoltent?
Je ne le formulerai pas comme ça, parce que c'est sûr que malgré tout, ça, c'est toujours l'inconscient qui parle. Enfin, ça vient quand même de l'auteur. Donc, je sais bien qu'on utilise souvent cette image-là, et à un moment, les personnages deviennent autonomes. Je le dirais pas comme ça, parce qu'alors ça donne une impression que c'est magique, alors que c'est pas magique. Je pense que à force de travailler, à un moment on sent les choses. C'est comme un jogger ou un joueur de foot, parce que puisqu'on est dans le mondial va commencer, à un moment, à force de travailler, les choses viennent. Donc moi par exemple, j'écris dans mon bain, donc c'est bizarre, mais ça me détend, donc je prends une planche, mon petit carnet, et voilà. Et c'est un rituel, et je sais que quand je suis détendu, et quand je suis dans ces conditions-là, généralement, je suis inspiré. Et donc, je sens les personnages à un moment parce que j'y réfléchis et ils existent un peu pour moi dans ma tête. Et en effet, je commence à dialoguer et je me mets à écrire des choses que je ne savais pas que j'allais écrire avant, sous le coup de l'inspiration d'une certaine façon. Mais je ne pense pas que ce soit les personnages tout d'un coup qui me guident. C'est juste la pratique de l'écriture qui fait qu'à ce moment-là, mon inconscient peut s'exprimer et à force de travailler et d'écrire, c'est quelque chose qui me vient naturellement, comme un artisan qui est habitué à faire le même geste tout le temps. Alors pour y arriver, c'est tout un travail, il y a toute une mise en condition, il faut se documenter, avoir réfléchi à la structure pour être libéré de plein de questions, pour que ce petit moment un peu de grâce puisse arriver. Mais c'est quand même toujours l'auteur qui écrit, même s'il ne sait pas ce qu'il va écrire.
Vincent Zabus, vous évoquez donc votre pratique du théâtre, votre écriture pour le théâtre. Donc vous avez une compagnie, Les Bonimenteurs. On a vraiment dans La Fragilité des Hommes cette importance du théâtre pour aider à libérer la parole dans cette petite ville de Mouet. Et dans l'autre sens, qu'est-ce que la bande dessinée ou un roman graphique comme La Fragilité des Hommes peut influencer votre pratique du théâtre?
Je pense que ça, l'influence énormément, parce que moi, je viens de la bande dessinée. Le théâtre est arrivé dans un deuxième temps, un peu par hasard, parce que je me suis trouvé prof de français avec des élèves de 16 à 18 ans. Je devais mettre en scène, les mettre en scène. C'était la tradition dans l'école où j'étais. Et donc, je me suis remis au théâtre, mais moi, mon objectif, c'était de faire de la bande dessinée. Donc, j'ai une culture BD, en fait. Je crois que j'en ai 7000 chez moi. Je suis un grand collectionneur. Je crois que je travaille parfois. Je me demande si je ne travaille pas avec plusieurs éditeurs, parce que ça me donne l'occasion de leur demander on voit leur nouveauté. Donc, j'ai une... depuis tout petit, je lis énormément de bandes dessinées. C'est mon langage le plus naturel, en fait. Et donc, il y a une dynamique chez moi qui s'est installée. En fait, j'ai l'impression que le fait de devenir comédien, c'est comme si j'étais devenu mon propre dessinateur. C'est-à-dire que j'ai pu rendre concret des idées intellectuelles que j'avais en tête. Et je crois que avant que je devienne comédien, j'arrivais pas à me faire littéraire. Trop intellectuel, trop construit et pas assez senti. Et tout d'un coup, de passer de l'autre côté, et j'avais moins de moyens techniques, je joue un peu à l'instinct, encore maintenant d'ailleurs, hein, je joue un peu à l'instinct comme ça. Mais c'est comme si j'accompagnais le geste, j'incarnais des idées, et je vous assure, quand on joue en public ce qu'on a écrit et que les gens baillent et qu'ils s'en foutent ou qu'ils partent, parce que quand tu fais du théâtre de rue, les gens s'en foutent, le soir, pour travailler votre texte, et puis vous le torchez. Et donc, ça m'a donné ça. Et donc, finalement, il y a une dynamique qui est chez moi très positive, très ludique entre les deux. Et ce que m'amène la bande dessinée, je pense que c'est une dimension visuelle que j'amène aussi au théâtre. Tous les auteurs que j'ai lus et qui m'ont beaucoup nourri et qui fait que je pense que je suis un auteur de théâtre qui crie pas comme les autres parce que je suis nourri de bande dessinée, et je suis un auteur de bande dessinée qui crie pas comme les autres parce que je suis nourri de théâtre. Et c'est une petite originalité qui est venue par hasard dans mon parcours, et je pense que chaque auteur a la sienne. Alors au début, je m'excusais de ça, j'avais l'impression que j'étais moins vrai dans chacune des deux catégories, parce que je faisais deux choses plutôt qu'une. Et puis, au fil du temps, j'ai fini par l'accepter et par me dire, ok, je produis sans doute moins qu'un autre dans chacune catégorie, mais ça me donne un ton qui est peut-être singulier, parce que c'est original, cette façon de travailler.
Merci beaucoup, Vincent Zabus. On va continuer à parler de la fragilité des hommes avec Nicobi après la pause musicale. Merci et très bonne continuation.
Oui, merci beaucoup.
J'en ris, laisse même mes dents prendre le soleil. Je ramène ma fraise là où c'est triste. Je te prends la main, sentir couleur, structure, culture en auxiliaire. J'ai l'air de faire des rimes vivantes. On tourne en valse, loin du ciment. Les grands de ce monde, je les calcule pas. Ça me fout la gerbe de voir la merde. Alors je me perds dans le fond de tes yeux et je danse avec les deux. Allons plus loin en autarcie, voir comme c'est beau les ciels pluvieux. Qu'un jour pluvieux, je puisse dire comme tout est beau avec le sourire. Et nique sa mère, je veux la lumière, juste que j'ai part des choses primaires. Le vent clairait, l'esprit serein, le chant du ciel et l'amour des chiens. L'amour de ma mère, ça me suffit pas. Je voudrais qu'elle aime la terre entière, mais ça les gens apprécient pas. Ils disent qu'il faut rester au pas. Des fois c'est sec comme une biscotte. On n'aime pas le mec qu'on est devenu. On se laisse berner par le jaune du toc et on regrette ce qu'on a perdu.
Dessiner des hommes, leur fragilité est déjà une difficulté. Comment représenter la timidité, la résignation, la méfiance, ou au contraire la curiosité, ou ce qui nous fera sortir de nous-mêmes, ce qui fera nous révéler? Nicobi propose ses réponses à ces questions et montre comment la bande dessinée est capable de nuances, rompant avec cette tendance à l'exagération des expressions, des visages, des gestes pour qu'ils soient compréhensibles. Le trait de Nicobi est juste. Il pose les regards avec deux seuls points noirs, signifie les gestes en quelques traits, conserve de l'ironie avec un réalisme tenu à distance. Un découpage précis de bout en bout, un sens du cadrage, de l'espace, de la case, apporte à la lecture de la fragilité des hommes une fluidité constante. Nous sommes avec Nicobi pour évoquer ces questions de dessin. Bonjour Nicobi.
Ben, bonjour Bruno.
Alors, déjà, pour qu'on ait bien le contexte de votre écriture dessinée, quels documents vous livre Vincent Zabus, par exemple, pour la fragilité des hommes? Qu'est-ce qu'il visualise de la planche?
Vincent visualise pas mal de choses parce qu'il est metteur en scène de théâtre lui-même et du coup, il a une vision très, très graphique, très plastique tout de suite de ce qu'il veut raconter. Donc il y a beaucoup de choses, moi ça me va très bien parce qu'on considère que je suis très très fort, mais très souvent c'est le mérite revient à lui. Je le dis pas trop parce que ça fait c'est pas désagréable. Mais voilà. Et donc à plus forte raison quand il est question de théâtre, là c'est vrai que ces deux casquettes s'entremêlent. Et donc il traite la mise en page de la bande dessinée comme si c'était la mise en page d'un de ses spectacles théâtrales.
Alors, la fragilité des hommes est marquée par un récitatif qui est celui de la ville, qui évoque donc cette histoire. Est-ce que ça génère une conception de la mise en image différente, particulière, notamment pour représenter cette ville de Mouet?
Un petit peu, ouais, un petit peu, parce que du coup, la ville, on réfléchit un peu à comment on la dessine un peu plus. Parce que il faut qu'elle ressemble un petit peu à la personnalité de cette voix. Ça, c'est bizarre. Mais en effet, le narrateur de l'histoire, c'est la ville elle-même. Donc, j'essayais d'avoir un truc un peu raccord, un peu cabossé, mais en même temps qu'il y ait pas de, que ce soit une ville sans personnalité, paradoxalement. Donc, quelque chose qui peut parler à tout le monde, quoi, avec, en gros, c'est un village qui a eu un certain essor à une époque et puis qui est sur le déclin. Donc, tout est un peu en train de fermer. Il n'y a plus beaucoup de commerce, il n'y a même plus beaucoup d'habitants. La ville parle de ce point de vue-là, quoi. Donc je la dessine de cette manière-là. Un peu ville sur le déclin, ville un peu oubliée.
Alors Nicobi, y a bien sûr les décors extérieurs de cette ville. Il y a aussi tous ceux à l'intérieur, des maisons, des lieux de travail, des cafés. Est-ce que vous êtes assez léger sur les décors au sens où vous ne les précisez pas comme on peut le faire ou comme on le voit assez souvent? Vous restez un peu discret. Il donne juste un contexte finalement.
Ah ouais, tout à fait. Moi, c'est un peu ma manière de faire, mais je trouve aussi que ça aide chacun à s'y projeter, qu'il n'y ait pas grand-chose. En fait, ce pas grand-chose qui reste, c'est un peu le dénominateur commun. Et du coup, une maison de une maison un peu ancienne, on va tous y projeter un peu les mêmes choses. Si on rentre dans des trucs plus précis, je pense qu'on va perdre des gens en route. Donc ça me plaît bien, moi, cette idée d'essayer d'être sur le minimum commun, en quelque sorte, pour représenter des intérieurs.
Comment s'est composée, Nicobi, l'écriture dessinée des personnages? Comment les travaillez-vous? D'autant plus que là, ils se révèlent, beaucoup se révèlent et donc vont changer dans ce récit.
Ouais, c'est rigolo parce que c'est un truc auquel je pense pas du tout, ça, le fait qu'ils changent. Au début, on essaye d'avoir un casting, en quelque sorte, avec des physionomies qui se répondent un peu, qui se ressemblent pas trop, qui chacun va être identifiable. Il y a un truc qui marche bien pour ça, c'est de les mettre tous en ombre chinoise et de voir un peu si on arrive à les identifier. Une fois qu'on a ce casting qui fonctionne, moi je fais connaissance avec eux, en fait. C'est-à-dire qu'au fil des pages, je commence à me les approprier de plus en plus et j'espère de mieux en mieux. Et puis aussi à les connaître de manière un peu plus intime, un peu plus subtilement, enfin en tout cas d'un truc que je ne saurais pas expliquer. Mais il y a un moment où j'arrive à comprendre comment ils vont être en colère, comment ils vont être malheureux, comment ils vont justement pouvoir se transformer comme ça. Ça se fait assez naturellement, en fait.
Nicobi, pour les regards, vous utilisez que deux points noirs. Et pourtant, on a beaucoup de nuances dans ces regards. Alors, comment ça se passe?
Comment ça se fait?
Comment ça se fait?
Je ne sais pas, mais c'est un truc qu'on soigne, en tout cas, que je soigne particulièrement. C'est là que se passe vraiment, on dit que c'est le miroir de l'âme, et c'est, les émotions passent vraiment par les regards. Et c'est un peu comme pour les décors, hein, c'est-à-dire que c'est tellement à l'épure qu'en fait, ce qui reste, c'est l'essentiel. Et il m'arrive d'avoir un dessin un peu plus réaliste sur certains travaux, mais malgré tout, je reste sur ces yeux points, parce que je trouve que c'est ce qui est vraiment le plus efficace pour raconter les émotions. Les personnages existent mieux de ce fait-là, de mon point de vue.
Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir des ratés? Est-ce que vous reprenez, vous jetez, vous refusez des dessins parce que les regards ne seraient pas aussi justes que vous le souhaiteriez, Nicobi?
Moi, je ne dirais pas jusque-là, mais de déchirer parce qu'un regard n'est pas juste. Non, mais en revanche, je travaille. Quoi, je gomme, je recommence, je regomme, et ainsi de suite. Mais en effet, il faut que les regards soient justes. Ouais. Il faut que les regards soient justes, sinon c'est tout le personnage qui se pète la gueule. S'il a un bras trop long, c'est pas très grave, mais s'il a un regard qui raconte autre chose que ce qu'on veut dire, là, c'est très problématique.
Alors, avec Vincent Zabus, on a évoqué ce travail commun sur le découpage, le choix des images, des cadrages, pour que ça colle au plus près des situations. Je pense par exemple à deux scènes où on voit deux hommes, les habitués du bar, qui vont révéler ce qu'ils sont. Et là, les visages sont obscurcis. Comment s'est fait ce choix de garder juste le texte et de donner très peu d'informations sur le visage?
J'ai l'impression que si j'étais dans cette situation, je préférerais être dans l'ombre, je préférerais pas être trop visible. Ça, là, il y a un peu de projection de soi, je pense, dans ce truc-là. Et en fait, quand on se projette soi, on est sur une réaction juste. Et donc, si c'est une réaction juste, elle est plausible.
Il y a, dans la mise en scène de votre bande dessinée, un choix d'une grande régularité, notamment sur l'utilisation du trois bandes avec des hauteurs qui sont régulières, avec des espaces entre les cases qui se prolongent d'une bande d'image à l'autre. Qu'est-ce que vous cherchez en adoptant cette régularité? Qu'est-ce qu'elle vous apporte, Nicobi?
Alors, ça, c'est assez conscient, ce truc-là. En fait, moi, j'aime bien cette régularité. J'ai l'impression que c'est une manière de faciliter la vie de mon lecteur et de l'aider à se mettre dans les chaussons du livre, quoi. Donc, normalement, quand il tourne une page, il n'est pas perdu. C'est des codes qui sont mis en place une fois pour toutes au début. Et ça n'éclate pas dans tous les sens. Et si un jour ça devait éclater dans tous les sens, ce serait pour une raison bien précise. Mais je considère que ça fait partie du... C'est un peu comme une espèce de grammaire, quoi. Une grammaire que j'utilise pour raconter mon histoire. Donc c'est régulier. Les cases sont un peu tout le temps la même taille, enfin, selon un certain canevas. Et on n'est pas perdu.
Il y a également un choix pour évoquer l'ombre, les changements de lumière, avec un travail de traits, ce ne sont pas des hachures, mais des stries, qui sont très précises. On imagine une régularité du geste dans leur dessin. Quel dessinateur êtes-vous sur votre table pour avoir cette maîtrise précise, constante, tout au long du livre?
C'est un métier assez assidu, hein. On est rarement auteur de bande dessinée et dilettante, en fait. C'est un travail de chaque instant. Non, mais ça prend beaucoup de temps de faire une bande dessinée. Mais il y a un moment avec les hachures, là, où ça devient quelque chose d'un peu... un truc un peu apaisant. Il y a presque de l'ordre de, pas de l'hypnose, mais un truc un peu comme ça, quoi, où le geste est mécanique et puis la pensée se repose en quelque sorte. Et c'est assez agréable à faire.
Alors, Nicobi, je pensais pas au côté dilettante, par opposition, mais il y a des dessinateurs très à l'énergie qui vont être presque debout sur leur table à dessin. Et donc, en fait, ce travail de hachure montre au contraire quelque chose de plus apaisé, de plus posé. Et pourtant, vos personnages ont une gestuelle, il y a de l'ironie, c'est pas un dessin réaliste, il y a des typologies fortes. Alors, c'est une attitude constante sur votre table à dessin tout au long du dessin, ou selon ce que vous faites, ça peut évoluer?
Ah oui, ça évolue complètement, ouais. Ah oui, là, la volonté, c'est aussi d'avoir pas mal de hachures pour donner une espèce de patine au récit. Mais c'est pas quelque chose que je fais systématiquement. Là, il y a en effet une opposition entre le geste et puis le registre graphique qui est assez dynamique. Et puis ces hachures qui vont créer une espèce de, déjà de luminosité tout le temps, parce que ça représente beaucoup les ombres et les lumières. Et puis ça aide aussi, c'est aussi guidé par une volonté d'être très lisible, et donc d'accompagner des volumes, par exemple, des formes, des choses comme ça. C'est toujours la volonté de faciliter le chemin pour le lecteur qui va s'aventurer sur ce livre.
Nicobi, comment s'est passée la relation avec François Sauvage? Déjà représenté un homme qui ne finit pas ses phrases et puis qui, à la fin, va vraiment les finir et parce qu'il se révèle. Jusqu'où va l'empathie pour son personnage quand on est dessinateur?
Elle est totale, en fait. Elle est vraiment totale. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je disais tout de suite, hein, on fait connaissance, mais de la même manière qu'on se fait de nouveaux amis. Au bout d'un moment, je suis en empathie totale avec lui et je finis par comprendre ses doutes, ses angoisses, ses, tout ça, et à comprendre pourquoi il réagit comme ça. Et heureusement, sinon ce serait compliqué de faire le livre. Mais petit à petit, c'est ce qui fait aussi qu'on prend plaisir à le mettre en scène, hein, et à le dessiner. Mais on devient vraiment proche, on tisse des liens assez... assez inattendu, parce que je suis bien conscient que c'est des personnages qui n'existent pas dans la vraie vie, mais néanmoins, c'est presque comme ça. Mais je pense qu'il se passe la même chose quand on est très très bien dans un film, par exemple, et puis qu'on a des réflexes qui sont qui n'ont plus de distance, quoi. On se dit, mais attention, faudrait pas qu'ils fassent comme ça, etc. Comme si on était face à un truc réel. Bah là, c'est la même chose. Je finis par être empathique complètement avec le personnage.
Nicobi, est-ce qu'il y a eu un moment dans ce roman graphique, La fragilité des hommes, où il y avait une difficulté plus ardue que les autres, plus difficile à dépasser ?
Souvent, la difficulté, elle est au début, en fait. Elle est de trouver la bonne porte d'entrée pour raconter. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On a un peu tâtonné. Au début, j'ai un peu tâtonné. Et les premières versions étaient un petit peu plus sages. Et justement, c'est suite à ça qu'on a apporté, que j'ai ajouté toutes ces hachures qui donnent du relief, qui donnent une patine un peu étonnante. Et puis, les cadrages aussi ont un petit peu évolué à ce moment-là pour chercher des choses un peu plus inattendues, je dirais. Et décaler un tout petit peu la manière, le propos qu'on aurait, quoi. C'est un peu comme de se dire, on a une histoire et on va demander à tel écrivain ou tel réalisateur de la mettre en scène. Bah, si c'est Jacques Demy ou si c'est Steven Spielberg, ce sera sans doute pas la même manière de le raconter. Donc c'est vraiment exactement la même chose.
Merci beaucoup, Nicobi. Je rappelle les caractéristiques du livre que vous avez fait avec Vincent Zabus, La fragilité des hommes. Donc c'est publié par les éditions d'Argo et les 128 pages de ce livre sont au prix de 23,50 €. Et le livre a été imprimé en France. Bah, très bonne continuation, Nicobi, et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, c'était la reprise de Because the Night de Patti Smith par la chorale d'un soir qui est. Il y a un site, c'est une initiative en Belgique où des gens se rassemblent et chantent comme ça des très grands morceaux. À suivre, à voir. Et c'est tout à fait dans l'esprit de la fragilité des hommes et de ce théâtre dans la ville de Mouy. Je voudrais terminer avec La Gosse. C'est un roman graphique de Cathy Bor qui est inspiré du récit de Nadia Daham. Le livre, commence ainsi. Ça fait 2 semaines que le père de La Gosse est mort. 2 semaines qu'on ne sait pas laver les cheveux ni les dents. Comment être nostalgique de l'enfance de son enfant sans la figer ? Comment la prémunir de la violence des hommes sans la cloîtrer ? comment lui conter ses romances calamiteuses sans la décourager d'oser l'amour, comment la regarder se faire belle quand on vient tout juste de faire le choix de renoncer avec soulagement et les cheveux sales à se rendre désirable. Le récit de Nadia Daham est un récit où il y a des partis pris très forts. Le titre en est un, parce que cette relation entre une mère et sa fille, où les deux phrases d'introduction, les deux premières phrases que j'ai citées, eh bien, nous lancent tout de suite dans ce contexte de cette relation et de comment elle va se passer. Le choix d'appeler sa fille la gosse est une façon de permettre au lecteur de rentrer et d'être dans cet espace familial en nommant sa fille par son prénom. Eh bien, le risque, c'était qu'on soit à distance et simplement spectateur de ce récit. Cathy Bord, dans son adaptation, a repris cet esprit et donc va nous faire rentrer. Alors, le dessin est un passage très aidant, puisqu'on peut vraiment être dans une visualisation des espaces de cette famille monoparentale, de cette relation mère-fille, à un moment tragique. Et donc, le récit, et bien sûr la bande dessinée, parle de ce qu'il y a après le tragique. Et Cathy Bord va utiliser tout ce que la bande dessinée a en elle-même comme possible pour qu'on soit déjà d'une part dans les espaces de cette relation, dans l'appartement comme dans la ville. Et puis, il y a ce que permet le dessin, c'est donc cette facilité à mélanger à la fois un décor ou un personnage et puis une symbolique derrière, un dessin qui va être beaucoup plus une représentation des émotions, des sentiments que le décor simplement de la scène où qui se déroule. Et donc c'est très important parce que cette liberté du dessin va parfaitement coller avec tous ces allers-retours qu'il y a entre la mère et la fille, tout ce questionnement qui est assez permanent. Donc, à un moment, on va vraiment pouvoir utiliser le dessin pour nuancer, spécifier, préciser quel est le niveau de ce questionnement, le niveau des doutes, le niveau des espoirs et des craintes. Et c'est là où Cathy Bord, qui a un dessin très précis, qui rappelle certaines esthétiques de dessins de livres jeunesse, avec ce choix d'une douceur dans le trait, d'un trait qui n'est pas dans la tension, mais au contraire qui va épouser les formes, qui va être dans la précision de la gestuelle. On a ces regards aussi avec principalement les points noirs qui étaient évoqués avec Nicobi, parfois les yeux en amande. Mais donc, à chaque fois, il va y avoir une palette, un ensemble de styles qui va donner tout l'éventail, toute l'amplitude à ce récit et qui va vraiment donner une puissance et une évocation au récit donc de Nadia Daham, qui est un récit donc autobiographique. Et là, il y a ce dessin qui va apporter, et notamment au tragique, qui va apporter cette folie qu'il peut y avoir dans le dessin avec une très grande facilité. Il y a une mise en couleur qui est aussi tout en douceur, qui colle parfaitement à ce moment de transmission mère-fille. Et c'est une des très belles réussites de ce principe de l'adaptation, de l'adaptation littéraire qui est souvent assez casse-gueule. Mais là, on a un ensemble de partis pris qui fonctionne très bien et qui fait qu'on rentre, presque à notre insu. Déjà, il y a les deux phrases d'accroche, mais très vite, on va être avec cette mère et la gosse. Et ça fonctionne très bien. La gosse de Cathy Bord, d'après le récit de Nadia Adam, c'est publié par les éditions Rue de Sèvres. Et les 136 pages de ce récit sont au prix de 20 €. Et le livre a été imprimé en Belgique. Merci Antoine pour cette technique. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Lisa Abb. Écriture dessinée.